Debiaio de Biasso. Debiaio de Biasso, votre émission qui traite de musique, de lettres et de culture occitane, avec Guillaume Boucher.
Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti e siamo tornati della nostra emissione di Biai o di Biasso. E di oggi andiamo a parlare di scrivere ancora sinol del mondo che surgeru a fa della gentolucia del poeta e pennello la seconda guerra mondiale. Oui, aujourd'hui, nous voulons relater à nos auditeurs le temps et l'énergie qu'ont consacré les écrivains quercinois pendant la Seconde Guerre mondiale à la transmission de la langue d'oc. Les démarches de valorisation de la langue d'oc n'étaient pas des choses nouvelles dans les années 40. Depuis la fin des années 1870, les publications de la Société des études du Lot faisaient bonne place aux fables de l'abbé Antonin Héretier, originaire d'Orniac, et organisaient des concours poétiques en l'honneur des mobiles du Lot de la guerre de 1870 contre la Prusse, où ce dernier et l'abbé Justin Gary, curé de l'Arnagol, rivalisaient sur la forme. Nous avons déjà évoqué la figure de l'abbé Gary dans une précédente émission, en donnant la lecture du miracle de Sant'Esperio, le miracle de Saint-Espéry, qui est un des joyaux de la poésie occitane du Lot. On doit aussi au bulletin de la Société des études du Lot d'avoir publié à cette époque des passages entiers du livre Tanet et d'autres écrits médiévaux occitans concernant le département du Lot, des chartes communales comme celle de Luzèche, celle de Gourdon ou de Cahors, munies de traductions françaises et de commentaires. C'était une époque où les élites étaient certes éduquées aux humanités, mais faisaient intelligemment la relation de leur « haute culture » entre guillemets à celle de leur petite patrie. Toujours est-il que dans les années 1940, les cadres culturels quercinois, j'entends par là les intellectuels, les gens qui écrivaient, les gens qui prenaient part à la vie culturelle et intellectuelle du département, qui agissaient dans différents organes de presse ou alors dans diverses sociétés, associations. Alors quand on parle de quercinois, on parle aussi du Lot et du nord du Tarn-et-Garonne. Eh bien, ces cadres culturels font le constat des premières générations d'enfants qui naissent à la campagne et parlent le français plutôt que l'occitan en première langue. Ce constat d'acculturation volontaire de la part des familles va animer un long débat dans la revue Quercy, revue autorisée par Vichy et qui parut entre le mois de décembre 1941 et les mois d'octobre et novembre 1943. Avant de rentrer dans le détail de la controverse sur l'enseignement de l'occitan qui a animé les pages de cette revue dans ces années, eh bien nous vous proposons d'écouter un chant tiré du CD Ben de Solano de Jean-Pierre Lafitte, chant intitulé La Pastura. Les auditeurs ne sont pas surpris quand je parlais après de chant, car il s'agit bien d'un chant qui avait été collecté par Joseph Canteloube, déjà avant les années 1930, et qui a été sujet d'un grand intérêt de plusieurs groupes, notamment le groupe Rigorago dans les années 80, et là, dans les années 90, dans une version instrumentale, ce chant de berger a été interprété par la troupe de Jean-Pierre Lafitte. Mais revenons un peu en arrière, à savoir dans cette période sombre de l'histoire mondiale que sont les années 40, et pendant laquelle néanmoins ont éclos certains débats qui ont été cruciaux pour l'enseignement et la diffusion de la culture occitane. Dans la revue Quercy, qui était dirigée alors par un proche de Jean Lursa, nommé Joseph Moreil, œuvrait à la promotion de la culture quercinoise plusieurs intellectuels. Cette revue, elle, s'intéressait particulièrement à la littérature et à l'histoire et laissait une place de choix aux écrivains intellectuels de Languedoc. Joseph Moreil a été connu par la suite pour la publication d'une anthologie des écrivains et poètes quercinois francophones et occitanophones qui, à notre avis, a fait date et reste une référence à ce jour. Alors, il faut faire une petite parenthèse sur le régime de Vichy qui avait une conception de la nation française, bien évidemment, qui était une somme de toutes les petites patries. C'est pour ça que le régime de Vichy a encouragé notamment la création de groupes folkloriques, la création de revues s'intéressant aux arts et traditions populaires, s'intéressant aux identités régionales, car elle estimait que la somme de ces petites patries était et contribuait à ce qu'était la grandeur culturelle de la France. C'est pour ça que cette revue a connu, dans notre département, cet intérêt dans ces années-là. Et au sein de cette revue, va s'animer un vif débat à propos de l'enseignement de la langue occitane à l'école. Car il faut le rappeler, à l'époque, que officiellement, l'enseignement des langues autres que le français est interdit. Et il l'était sous la Troisième République. L'usage de l'occitan à titre d'outil pédagogique avait néanmoins été pratiqué et le grand champion de cette méthode était l'instituteur et ethnographe quercinois Antonin Perbosc, originaire de Labarthe, à la frontière du Lot et du Tarn-et-Garonne. Cet instituteur, en effet, envoyait ses élèves dans leur famille en leur demandant de collecter des contes, des poèmes, des proverbes. Et alors, il apprenait à ses enfants, en même temps qu'il apprenait à écrire, il leur apprenait à écrire l'occitan et le français. Il se servait de l'occitan pour apprendre le français. Mais il enseignait aussi aux enfants leur culture. Cet instituteur était un transfuge à l'époque. Mais, en tout cas, il a connu, et ses idées ont surtout connu une certaine pérennité. Alors, néanmoins, dans cette revue, se sont affrontés amicalement, mais sur le plan des idées assez vertement, deux riverains de la vallée du Lot, l'un Jean Bonafous, qui était de Cajar, et l'autre Ernest Lafon, qui était né à la Gardelle et originaire d'Albas, donc certes opposés sur le point de vue qu'ils avaient sur l'enseignement de l'occitan, et aussi opposés dans leur géographie sur la vallée du Lot. Eh bien, ce n'est pas tant sur le fond, à savoir la transmission de l'occitan qu'ils s'affrontent. Mais c'est sur la forme que doit prendre cet enseignement. Ernest Lafon, lui-même instituteur, était un légaliste et s'il aime et s'il défend et promeut sa langue maternelle dans ses œuvres écrites, mais aussi ses émissions radiophoniques pour Radio Toulouse, eh bien la langue occitane doit rester un outil pour l'apprentissage du français. Elle aide à reconnaître les pluriels, par exemple, ou les accords des participes passés, et à la connaissance de son terroir. Jean Bonafous, lui, était bien plus engagé et prônait un enseignement de la langue et dans la langue, ainsi qu'une connaissance des œuvres de référence qui devaient trouver leur place dans le temps scolaire. Leur débat ne s'est pas entretenu suffisamment longtemps jusqu'à la loi d'Exon en 1951 qui fut la première à autoriser de manière facultative et au bon vouloir des instituteurs l'enseignement des langues dites alors régionales. C'est ainsi que nombre d'enfants scolarisés à cette époque ont pu apprendre la chanson du Bouillet, le Bouvier, ou quelques textes en prose tels « La lingua de la mamme », qui favorisait la prise de parole et le naturel des enfants qui entendaient parler de toutes parts ce que l'on nommait alors le patois. C'était en effet la langue des grands-parents, la langue des parents, la langue des voisins, la langue du commerce, c'était la langue de tous les jours. Plus discret, mais tout aussi actif, ce sont certains prêtres qui ont conçu des outils et expérimenté l'enseignement occasionnel de l'occitan. Les plus fervents et assidus à ce sujet furent les abbés Jules Cubain et Arthur Roussille. Le premier, en collaboration avec l'écrivain et homme de théâtre, vétérinaire et sénateur du Tarn-et-Garonne Frédéric Cayrou, a conçu une petite anthologie des poètes et écrivains quercinois à l'usage des écoliers dont nous vous proposons la lecture dans quelques instants. Le second s'en servit pour donner des devoirs en patois aux étudiants du petit séminaire de Gourdon, d'après la relation que nous en a faite le père Labro. Alors, nous pensons que cette petite anthologie occitanophone, eh bien, a servi de maquette à la très belle anthologie en occitan et en français qui a été livrée par la suite par Joseph Moreil. Nous vous proposons de vous lire la note d'intention de cette petite anthologie écrite en occitan et conservée aux archives diocésaines de Cahors. Elle a été écrite par Jules Cubain et Frédéric Cayrou. Aquí un libro tutto in lingua nostra, per vous parlar de ciò nostre, de ciò come vi de vostre gel, ou aussi de vostre jovurillor, de ciò che se fa ou se dir au vostre contour, d'un vostre justal, vostre scuder, per leur pêchoi, per i bosche et per leur paradoi, et su tout ce auquel ce que l'on écrit au co, de monde de vostre pays, de braves corsinol, d'où le macho par, plobi ben, bejou et aïmou ce que bougeau, bejej et aïmar. Boudou n'aime pas ici tout son, ce plus qu'un chèque, ni ce meilleur de leurs obres. N'avons pas pu causer son code rétal, un pas au cours, et qu'au peuple d'Ogroda, au dessous une gêche couleur, et d'un leur proche et poèmes, son que leur passe qui portava un tout spécial parfum corsinol. Esperenza que l'ai, que vous donnerez ou que leur passez, le désir de ne mai connaître sur cadun des auteurs, et que vous auditerez mieux senti tout au corps que nous lions dans le secret del corps, en tant que la piccina patria, image concrète, tout familière de l'autre, le grand, le caro patria francese. D'un nostro causido, avem mollevat, al base al naup corsi. Au preso co, avem tengut a buduna un ideio de ce que se fat au co de nostre besi d'Auvergne, de Lemusi, de l'Ocener et de l'Ruergue. Au pei, le cire del gran mistral, un porrelle pazzoi, d'un sobe gairebe de memoria lo texte francè, e d'un bubolien lo dotto siu corsinolo. De mai, ove tingu o bubuta dopo un cauco i regoi de nostro lengo tal lo che le scribiou o cou no voleu sin senzon. E clobore nostre librot, en forquen componio ambusau, uno possezzado di l'ordilo sopienso populario, un trubolèr, un conte, un ciot de divinalior e tres consur. Per la lettura di questo antologio, burremondendo lo grammatico occitano del nostro amico Lobat Solvat, direttore del Collegio d'Occitania. E aro, ardi busau, l'usciuve, busau tutte che sen nostre corsi in flor. Alors, dans ce texte, eh bien, nous avons tout le projet de cette anthologie qui s'adresse à des jeunes écoliers et qui annonce le projet qui était celui, effectivement, de Vichy. Vous pouvez apprendre et vous devez connaître votre petite patrie, et cette petite patrie doit vous aimer à aimer la grande qui est la grande patrie française. Ce langage est un peu suranné et d'époque, mais néanmoins le projet restait vertueux, connaître le local pour mieux appréhender le global. Sur ces paroles, nous nous déplaçons de quelques centaines de kilomètres, passons la frontière pour retourner en Espagne, en Aragon, avec une entradilla de procession, une entrée de musique de procession.
Présence dans la cité mariale, 96.
Thank you.
Après cette entradilla de procession, eh bien, nous allons entrer dans la matière de notre anthologie. Alors, nous n'allons pas toute vous la dérouler, car ce serait bien trop long et il faudrait énormément d'émissions. Peut-être nous aurons le plaisir d'y revenir. Mais nous vous proposons au moins une lecture, celle d'un personnage extrêmement original et important de notre littérature kersinoise, qui s'appelait Frédéric Cayrou. Frédéric Cayrou, qui était originaire du nord du Tarn et Garonne, de la région de Montpezat, eh bien, jeune, était allé de l'autre côté de l'Atlantique et s'était engagé comme acrobate, mais aussi, il avait des connaissances et des études de vétérinaire, s'était engagé dans la troupe de Buffalo Bill. Buffalo Bill, dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes intéressé au monde du western et au monde du Far West. Eh bien, ce Frédéric Cayrou, qui a écrit beaucoup de poèmes, beaucoup de textes, et aussi une nouvelle assez étonnante qui s'appelle « L'homme qui est en orcute à 80 ans », l'homme qui était né à 80 ans, et dont l'histoire relate un homme né à 80 ans et qui plus il avance dans la vie, plus arrive vers le moment où, de sa naissance, rappelle le film qui a été tourné avec Brad Pitt, la fabuleuse histoire de Benjamin Button. Si vous voyez la fabuleuse histoire de Benjamin Button, eh bien, vous devez absolument aller lire le livre de Frédéric Cayrou, qui a précédé le film et peut-être qui l'a inspiré. En tout cas, dans son anthologie, c'est un retour dans les souvenirs d'enfance que nous propose Frédéric Cayrou avec l'image du couteau d'enfant, Cutel de Mainat. Me souveninquera del premier cutel que me crumpero. Lo lamo nero arredondido al cat per l'amor de mi picapar. E al cat del margue, gli obbio non elo per tal de l'estocà. E che lo predecipar. Toleu que lo mot ser uboliat, como de chuste, lo me colgué en chatzá. Tuxo que era boi, e que me tumbavo portado de mo, era leu mi colgat, orclat, desprofitat. Creji que se meri pa fat un brave picol de gros, serio pa demurado no quito codiero, o un quite caire de taulo sonse dintul lustal. Uruso men que lo gordari pa plunten. Lo prunie cot, Coupliderou de l'umestocalo senjo, l'uprederi. Digi pas que si è perdu per tout le monde, mer obio fornia de tal moniero che lo tourneri pa veire. Savi pas se lo aver remorcat, mais cado cot que perdes un cutel è rare che lo tournes trouva. Budiro ube que se fores present un cutel o caucun, o co copolo jomistat. Un cutel pona, loi diu pas cupa, o paramen. Come non si è divertito quando si scute lui di mo' gioventù? Allo primo, ora ben chiare di bronco e di cudugnè, e allo marghe, facciano sciopare la pelle e lo trucchiano sul ginocchio. Tutto in contento, sapo, sapo, caramel. Ne facciano di pifre, di strumenti di musica, bostardi del clarinetto e dello trombolo, o che lui dice che si stiro e sorruco, che sembra che lui musiciano tense l'engolo e lo desengolo. Ciuà ventove al cutelu murru. Plosse budeve souvenir de la formula consacrado. Al cutelu murru? Nu, levo te e cerco lu. Nous arrivavo tobe de scrivere nostre nun sullo stavolo de l'escolo. E come era pa mala isita al ricen de sapere qual era o quel che vi ho fatto lo malo faccio, nu voglio souven cauco i bravo gestirado dai de piol. Tutto co era par che ciò de mainace, déjeuner d'un coutel que dobolavo del cot al ren d'une simple cureta. Frédéric Cayrou. Après cette évocation des jeux d'enfants et de l'apprentissage avec les premiers outils et du rôle sentimental du couteau, le coutel, le coutelou del pitchu mainat, eh bien, nous allons nous quitter. Et nous serons contents de vous retrouver dans une prochaine émission de Debiaio de Biacho. Mais c'est en musique que nous nous quittons, et avec le grand chanteur Renat Jurier, chanteur qui habite à Saint-Salvador dans l'Aveyron, et qui est une référence, car il a traversé plus que la tradition. Il a fréquenté les chants du monde, il a fréquenté le chant grégorien, et c'est à la lumière de tout ce chemin qu'il interprète les meilleurs morceaux de notre tradition. Vous dites, je dis ça, et je n'ai pas d'autre code d'un débiaï ou débiaï.
C'était votre émission Debiaio Debiaso, une émission qui traitait de musique, de lettres et de culture occitane en compagnie de Guillaume Boucher.